Online.
Kompass bringt fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind live in der Sendung von Südafrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Wir bleiben noch immer über den Präsidentschaft in Elfenbeinküste. Nach dem Resultat der Wahl in diesem Land gab es eine kritische Situation, weil die Wahl nicht klar war. Aus diesem Grund werden wir mit Laurent Despa per Telefon direkt aus Abidjan sprechen. Er ist Mediendirektor Kwasi.com. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Ich wünsche euch viel Spaß auf Kanal K. Bienvenue à tous au programme de Radio Canal K. À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Cette citation de Gandhi nous amène tout droit à votre émission Fenêtre sur l'Afrique. Sur Radio Canal K, un programme de débat politique et culturel africain. Ce soir, nous discuterons ensemble avec nos invités du problème de la non-transparence des élections en Afrique et surtout francophone. En effet, les résultats du second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire est très flou et critique. Un premier résultat proclamé jeudi dernier par la CEI, Commission électorale indépendante, donne la victoire à Alassane Ouattara. Grande surprise, vendredi dans l'après-midi, un deuxième résultat fourni par le Conseil constitutionnel proclame vainqueur le président sortant Laurent Gbagbo, qui a prêté serment cet après-midi à Abidjan. La situation est très critique et un flou total s'installe sur la crédibilité de la transparence des résultats en Côte d'Ivoire. Nous recevons à cet effet notre ami Laurent Despa, directeur de Kwasi.com, installé à Abidjan. Laurent sera en ligne en direct pour nous apporter quelques éclaircissements sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Notre correspondante Fabi Kwasi sera également en ligne en direct depuis Lomé pour le briefing de l'actualité politique au Togo, car les manifestations hebdomadaires du FRAC, Front républicain pour la tenance et le changement, ont repris. Rappelons que ce front avait contesté la victoire de Faure Gnassingbé pendant environ 6 mois. L'ossature de fenêtre sur l'Afrique est composée de Gisela Rossato, qui a la supervision. Josué Maoli et Esteban Gagnon assurent la programmation musicale. Romain collabore toujours avec nous depuis Beaune. Et sans oublier, bien sûr, la parfaite collaboration de Fabi Kwasi depuis Lomé. Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique au micro de Sylvain Amos. Chers amis du continent noir, encore une fois, bonsoir et merci d'être connectés sur le www.canalk.ch. Sans plus tarder, je vous propose d'écouter l'éditorial de Romain, Romain qui est déjà en ligne depuis Beaune.
Élection en Afrique, un non-sens. Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans la paix, il n'y a pas de progrès possible. Kofi Annan. La commission électorale indépendante a annoncé jeudi dernier les résultats provisoires de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Ces résultats donnent la victoire à Alassane Ouattara. Mais la Cour constitutionnelle s'est prononcée le lendemain après, plébiscitant Laurent Koudou Gbagbo, le président sortant de 51%. Et pour le moment, un flou total règne en Côte d'Ivoire et beaucoup d'interrogations se posent sur la transparence des élections dans ce beau pays du café cacao. À 14h GMT, Laurent Koudou Gbagbo a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, comme pour faire une réplique et ne pas reconnaître Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara vient de faire en même. Cela voudrait dire qu'il y a deux présidents pour un fauteuil en Côte d'Ivoire à l'instant où nous livrons cet éditorial. Au-delà du nom du vainqueur, l'enjeu est lourd. La Côte d'Ivoire doit mettre fin à 10 ans de crise politico-militaire et à l'apparition du pays en un sud loyaliste et un nord tenu par l'ex-rébellion des forces nouvelles FN. Depuis le coup d'État manqué de septembre 2002, légalement la Commission électorale indépendante CU avait jusqu'à mercredi à 0h locale et GMT pour annoncer les résultats complets. Elle en était tout simplement incapable. Au-delà de la violation flagrante des proches des Gbagbo, membres de la CI, qui a eu le toupet de saisir la feuille de la proclamation du résultat partiel, créant ainsi une jurisprudence inédite dont le Togo a été maître en la matière. Rappelons qu'en plein processus électoral en 2005, les militaires sont descendus au bureau du vote du collège de Beplage pour voler les urnes au vu et au su de la communauté internationale et prendre la fuite. Il nous semble impérieux et urgent d'ouvrir notre fenêtre grandement sur l'Afrique et particulièrement sur la Côte d'Ivoire pour poser le problème des élections avec acuité et fustiger si besoin en est la communauté internationale pour n'avoir pas résolu le problème du pays du fouette bien avant même ces élections de 2010. En vérité, les frères ennemis Gbagbo et Bédié, passant par Ouattara, ne se pardonnent pas. En 1992, Ouattara a voté la loi anti-casseur pour faire arrêter et emprisonner Gbagbo et Simone, sa femme. Lui tenant dans, Gbagbo lui-même a été empêché dans l'affaire de l'ivoirité sous Bédié de se présenter à la magistrature suprême. Bédié ne pardonne pas à Ouattara de lui prendre sa place. Les rebelles du Nord, même s'ils ne se revendiquent pas de Ouattara, ne peuvent pas tromper adversaire. Dans cette situation, il est prévisible que les trois frères ennemis ne se feront pas cadeau et que c'est le plus habile qui disposera du fauteuil en absence d'un scrutin transparent. Maintenant que Bédié se rallie à Ouattara, le combat sera très rude pour Laurent Gbagbo, qui se retrouve seul face à une alliance très soudée et qui veut réhabiliter les idéaux du feu président Houphouët-Boigny avec la complicité de la communauté internationale. Nous sommes de ceux qui pensent que cette élection est un non-sens sans l'implication réelle et honnête de la communauté internationale qui joue toujours de deux poids, deux mesures. Elle brandit aujourd'hui la carte de la Cour pénale, tandis qu'au Togo, elle a été muette pendant le massacre de plus de 500 morts. Cette même Cour pénale laisse Dadi Camara en paix pendant qu'elle poursuit Jean-Pierre Bemba. Complicité ou duplicité? Toujours s'agissant de la Cour internationale, malgré la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle, elle fait toujours la sourde oreille en soutenant vertement Ouattara. Cette sortie insolente de la communauté internationale rappelle malheureusement la période coloniale où les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Sylvanus Olympio sont sacrifiés aux dépens des ambitions farfelues de l'Occident. Les élections en Afrique telles que organisées ne sont pas la solution à nos problèmes. La Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix à partir du moment où elle est allée aux élections en scission, c'est-à-dire que les rebelles n'ont pas totalement désarmé et que les frères ennemis ne se pardonneront pas, même si Bédié a rejoint le camp de Ouattara. Cherchons une formule propre à nous qui ne soit pas un prêt-à-porter. Que des pressions de la communauté internationale soient faites en amont des élections pour une transparence et équité en aval, au lieu de faire du folklore comme actuellement en Côte d'Ivoire, où elle se discrédite et se ridiculise comme partout ailleurs en Afrique francophone où les élections amènent plus de problèmes que de les résoudre. Comme l'a chanté l'artiste ivoirien Tikenja Fakoli dans son dernier album Vivement, l'Afrique a besoin d'une révolution jeune et intelligente. Vive l'Afrique, vive le continent noir.
Young people. revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be black people education.
Go to school, brother, and learn what they are doing. It will open your eyes to the people's situation. Go to school, my brother. I said, go to school. You will understand very soon all the problems of your nation.
We want a revolution. Young people, revolution. Intelligent revolution. Must be African education.
In your mind, brother, there is the power to change the world. This understanding will help to make a better place. In your hands, brother, there is the key to this continent. And if you don't unlock it soon, it will be lost to the government.
L'Afrique a besoin d'une révolution intelligente et jeune, chantée par Tikenja Fakoli dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Le chef de l'État ivoirien sortant, Laurent Gbagbo, a été proclamé hier vendredi vainqueur de la présidentielle par le Conseil constitutionnel et a été investi cet après-midi par la Cour constitutionnelle. Mais son rival Alassane Ouattara se présente comme le président élu, formellement reconnu par l'ONU, et la France a également prêté serment par écrit, a-t-on appris aujourd'hui à Abidjan. Le fait le plus important qu'il faut souligner, c'est que les alliés de Bakayoko se comportent en Côte d'Ivoire comme en terrain conquis. Les Américains, l'Union et le Tribunal pénal international, sans oublier bien sûr l'ONU, ne reconnaissent plus la compétence de la Cour constitutionnelle ivoirienne. Dans ce cas de figure, le rapport de mission de l'OUIA, conduit par l'ancien Premier ministre du Togo, Kofi Go, qui parle du bon déroulement du scrutin dans sa globalité, est étouffé. À l'heure actuelle, le Premier ministre Guillaume Soro se désolidarise de Gbagbo et annonce sa démission. Bédié, Ouattara et Guillaume Soro sont sous la haute protection de l'ONUCI. La belle question est de savoir pendant combien de temps resteront-ils protégés par l'opinion internationale. Les élections en Côte d'Ivoire ne pèsent-ils pas un débat de fond sur la problématique des élections en Afrique qui commencent par démonter leurs limites. Rappelons que lors de la cérémonie de l'investiture cet après-midi à Abidjan, Laurent Gbagbo a demandé à la communauté internationale de respecter la souveraineté du peuple ivoirien. Pour bien comprendre cette situation très critique du second tour de la présidentielle dans ce pays de café-cacao, nous allons recevoir dans un instant notre confrère Laurent Despard, directeur de Kwasi.com à Abidjan. J'espère qu'il est déjà en ligne depuis Abidjan. Nous allons le recevoir tout de suite. Laurent Despard, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Laurent, merci de nous accompagner dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Après la confusion totale dans les résultats de la CEI et du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, on a assisté séparément ce samedi à deux cérémonies d'investiture entre les deux candidats, Gbagbo et Ouattara. Laurent Despard, la Côte d'Ivoire a-t-il deux présidents puisque la France, l'ONU et les USA reconnaissent la victoire de Ouattara?
Alors d'une part, ce samedi, nous avons eu qu'une investiture, c'est celle du président sortant Laurent Gbagbo, et d'autre part, la confusion n'a pas été au niveau du Conseil constitutionnel, mais au niveau de la CEI, qui, en étant hors délai, dans un endroit non neutre, a déclaré des résultats en embrayant le pas de la déclaration du Conseil constitutionnel. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire revendique plus que jamais sa souveraineté, via le président réélu Laurent Gbagbo, qui, comme vous l'avez dit, a prêté serment devant la nation ivoirienne aujourd'hui, alors qu'on annonçait le chaos, que les journalistes occidentaux annonçaient le chaos en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis actuellement en heure de couvre-feu sur la route pour véritablement observer que tout se passe bien. C'est le canton sur l'axe de Yopougon, où tout se passe très bien. Ce qu'il faut dire très clairement, il y a eu une élection, il y a eu une confusion au niveau d'un non-consensus observé au niveau de la CEI, qui, comme l'a dit Laurent Gbagbo aujourd'hui, est très politisé, et ce qui fait que ça met une confusion totale. Et dans tout ça, ce que l'on constate, c'est que la Cour constitutionnelle, en fonction des résultats qui ont été proclamés par la CEI, a tranché et a, en tout cas, validé l'élection du président Laurent Gbagbo. Mm-hmm. Ce qu'il faut dire, oui. Sylvain, c'est comme je vous l'avais dit au premier tour, mm-hmm. si on analyse très clairement, vous évoquez des problèmes, mais d'un point de vue de terrain, je vous avais dit que le premier tour avait été considéré par les trois partis comme non transparent. Ouattara a demandé à Bédié de ne pas porter recours à la Cour constitutionnelle, ce qui aurait créé un précédent de recours, donc peut-être une anticipation de réaction de l'opinion par rapport à la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas été le cas. Bédié s'est mis dans le rouage de Ouattara pour le second tour, et alors que Laurent Gbagbo aussi, qui avait vu des irrégularités, peut-être ces mêmes irrégularités qu'il a dénoncées au grand jour, au second tour, et qui ont été validées par la Cour constitutionnelle. Et de ce fait, le fait que comme Laurent Gbagbo était devant, donc il avait dit clairement lors d'une conférence de presse que du fait qu'il soit devant, il a demandé à son cabinet juridique de ne pas faire part de ces irrégularités. Peut-être que les rebelles en zone nord, n'ayant pas eu écho de leur fraude constatée par le Conseil constitutionnel, se sont adonnés aux mêmes fraudes au second tour. Rappelons que la Côte d'Ivoire est encore coupée en deux, et que, effectivement, c'est ce qui a amené politiquement dans une stratégie maligne Laurent Gbagbo à ce que les revendications, les recours au niveau du Conseil constitutionnel ont été adoptés, en l'occurrence les invalidations en zone CNO, donc ex-zone rebelle. Ce qui fait que les scores, effectivement, même si ce que la CEI a diffusé dans ce que l'on considère comme un cadre illégal et hors délai, ces résultats auraient de toute façon été revus par le Conseil constitutionnel. Laurent Gbagbo aujourd'hui a dit clairement qu'il faut peut-être vite revoir cette idée de la CEI, peut-être la dépolitiser de façon à ce que peut-être aussi elle ne donne pas, il a donné un indice elle-même, les résultats provisoires, de façon à éviter une confusion. Parce que nul doute qu'aujourd'hui, à cette heure, le camp Ouattara n'accepte toujours pas la victoire de Laurent Gbagbo et la voix du Conseil constitutionnel, qui est l'émanation de la Constitution, donc de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qui est un État, il le répète jamais assez, souverain, qui ne veut plus d'ingérence. On a constaté une ingérence française, notamment via France 24. Et tout le monde le regrette en Côte d'Ivoire, personne n'a vraiment compris ce qui se passait. Nous étions dans un contexte provisoire, ils annonçaient déjà une victoire de Ouattara. Avait-il pensait-il que le pays avait explosé? Et comme je le dis souvent, la Côte d'Ivoire de 2004, de 2010, n'est plus la Côte d'Ivoire de 2004. Ceux qui ont voté massivement étaient pour la plupart des primo-votants qui, en 2004, au moment des événements, avaient 13 ans. Donc ces gens-là n'ont plus envie de violence. La Côte d'Ivoire ne veut plus sombrer dans la violence. Aujourd'hui, il y a eu quelques petits foyers, des pneus brûlés, notamment à Marcory. Ça a été avorté en 2 secondes par la police qui est venue. Ça n'a pas été soutenu, ça n'a pas pris, en tout cas, d'ampleur. Donc, à ce stade, nous ne savons pas où est Alassane Ouattara. La plupart de son camp sont protégés par la France et l'ONUSI au niveau du Fotel. Mais ce qu'on peut dire très clairement, officiellement, constitutionnellement, dans le respect de la souveraineté ivoirienne, c'est que Laurent Gbagbo a été proclamé président et est le président, le seul président de la Côte d'Ivoire à ce jour.
Laurent Despa, le Conseil constitutionnel accuse la CEI de fraude. Mais du moment où la CEI a été incapable de proclamer les résultats provisoires dans les délais requis, dans le cas d'espèce, qui, selon vous, a compétence à proclamer les résultats, Laurent ?
Alors, les seuls qui ont compétence à proclamer des résultats définitifs, c'est la Cour constitutionnelle. C'est selon la Constitution ivoirienne, c'est comme ça. La CEI, elle, transmet des résultats provisoires, vu qu'elle a en charge le processus électoral, transmet des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle, qui, comme au Togo, comme en Guinée, on a vu avec la CENI, qui a proclamé Alpha Condé, pareil, étudie les recours et regarde un peu le travail de la CEI, en prend compte et valide ou ne valide pas. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ce cadre-là, une fois que les PV ont été comptabilisés au niveau de la CEI, ils sont directement transmis au niveau de la Cour constitutionnelle, qui elle-même, compte tenu de ce contexte-là, a refait le travail de comptabilisation du fait de la non-validation du fait de ce cadre, comme je disais, hors délai et hors légale de l'annonce des résultats de la CEI. Donc on pourrait dire que les résultats de la CEI n'ont pas été pris en compte de ce fait-là. Maintenant, comme je le dis, il ne revient qu'au seul Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire de promulguer quelconque résultat d'une élection présidentielle.
Oui, Laurent Despa, pour la première fois de son histoire en Afrique noire, la Cour pénale internationale, dans un communiqué du 3 décembre, s'ingère dans la vie politique d'un pays et sur un ton menaçant. N'y a-t-il pas deux poids, deux mesures quand on se réfère au passé où le TPI est resté muet devant les massacres de la Guinée sous Dadis Camara et aussi en 2005 au Togo pendant les élections où il y avait près de 800 morts, Laurent Despa?
Ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette heure, on n'entend pas parler de tribunal pénal international en Côte d'Ivoire. Ce sont des voix qui s'élèvent ci et là, mais comme je dis, des voix qui sont considérées ou considérables comme ingérences. Aujourd'hui, nous avons, vous savez, c'est l'ONU, le tribunal pénal international, ce sont des beaux idéaux, mais quand on voit le cas du Soudan avec Omar al-Béchir, qui, soi-disant, est condamné partout, mais qui voyage comme il veut et qui n'a jamais été inquiété, on peut dire tout ce qu'on veut. Laurent Gbagbo a clairement dit, et c'est le message officiel, que toute tentative d'ingérence est fortuite en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est un pays souverain, comme l'est l'ensemble des pays qui constituent le monde. Et il a bien rappelé la charte de l'ONU dans son article 3 qui dit clairement qu'aucun État n'a le droit de s'interférer dans les affaires d'un autre. Donc aujourd'hui, TPI, pas TPI, ce sont des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour. Je pense qu'il va falloir ramener la passion, faire redescendre la pression pour que tout le monde se retrouve. Et Laurent Gbagbo veut construire une Côte d'Ivoire, une vraie république, une démocratie, et c'est un gros chantier. Et tous les Ivoiriens, quelques positions, quelques camps sont appelés au rassemblement pour construire cette Côte d'Ivoire que tout le monde veut, paisible et prospère.
Oui, Laurent Despa, la France, l'ONU, la communauté internationale défient le Conseil constitutionnel et reconnaît plutôt la victoire d'Alassane Ouattara. Comment peut-on expliquer cette guéguerre entre la France et la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire?
Alors, comme je dis, la France peut donner, enfin certains de la France peuvent donner leurs avis, tout le monde peut donner son avis sur une élection, mais comme je le dis, si tout le monde commence à donner son avis sur une élection, imaginez si lors d'une élection française, l'Allemagne vient de dire non, c'est pas Sarkozy qui a gagné, c'est quelqu'un d'autre, imaginez la réaction des Français. Donc tout ce qui vient de l'extérieur peut être consultatif, peut être dans un cadre de respect légal. Écoutez, mais la décision, la décision émane d'un respect d'une constitution, d'un respect d'une souveraineté. Et la Côte d'Ivoire, je le répète, est plus que jamais, ne veut plus que jamais que sa souveraineté soit respectée, que son image soit respectée dans le concert des nations. Et c'est très important de le souligner.
Laurent Despa, une dernière question. Vous qui êtes sur place en Côte d'Ivoire, face à cette situation, une nouvelle rébellion ne se profile-t-elle pas à l'horizon en Côte d'Ivoire, Laurent ?
Pas du tout. Laurent Gbagbo a dit clairement Laurent Gbagbo lui-même discute depuis déjà longtemps avec des chefs rebelles, il l'a dit lors de son émission. Il a Guillaume Soro qui est son premier ministre. Guillaume Soro, rappelons-le, n'est rien sans Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui l'a créé de toutes pièces. Il l'a élevé, entre guillemets, il l'a reconnu lors de Marcoussi. Il lui a donné ce poste de premier ministre. Il a permis que Guillaume Soro devienne quelqu'un de connu et de riche, entre guillemets. Donc, rébellion ou pas, entre guillemets, des informations qu'on ait, c'est qu'il y a beaucoup de tractations de dialogue entre Laurent Gbagbo et les anciens chefs rebelles, parce que Laurent Gbagbo veut véritablement réunifier le pays et tourner cette page comme la volonté de toute la Côte d'Ivoire de ces heures sombres que tout le monde veut voir disparaître.
Laurent Despa, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de médias Kouassi.com.
Merci Sylvain, merci à tous les auditeurs.
Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K.
Nous devons recevoir dans Fenêtre sur l'Afrique M. Léopold Ninavi, secrétaire général de la CDPA, Convention démocratique des peuples africains, qui avait sorti un communiqué la semaine dernière contestant aussi la décision de la Cour constitutionnelle qui exclut 9 députés du Parlement togolais. Mais après nos contacts avec ce dernier, sur les sujets d'actualité politique du Togo, l'ancien patron de la CDPA a refusé de nous accorder une interview, ce que nous déplorons beaucoup à Fenêtre sur l'Afrique. Mais néanmoins, nous allons déjà prendre notre correspondante Fabi Kouassi, et qui est déjà en ligne depuis Lomé, et pour le briefing sur l'actualité politique au Togo. Fabi Kouassi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir à Fenêtre sur l'Afrique.
Merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique. Fabi, les marches de contestation du FRAC ont repris aujourd'hui à Lomé après plusieurs semaines de pause. Quelle a été l'atmosphère pendant les manifestations quand on sait que l'ANC, le nouveau parti de Jean-Pierre Fabre, manifeste aussi avec le FRAC pour contester la décision de la Cour constitutionnelle qui a exclu récemment 9 députés ANC du Parlement togolais, Fabi?
Oui, c'est une vague orange, une fièvre orange, les nouvelles couleurs de l'ANC qui ont déferlé dans les rues de Lomé ce matin. Le FRAC, comme tu le disais tantôt, a repris donc du service. Le FRAC est d'actualité, peut-on d'ailleurs lire sur une pancarte. Voilà, c'est fait, a dit PSR sursaut ANC allié de retour dans la rue. La contestation de la réélection de Forna Simbé toujours d'actualité, avec en plus l'exclusion des 9 députés ANC de l'Assemblée nationale. On pouvait d'ailleurs lire sur les affiches, nous demandons et exigeons la dissolution de la Cour constitutionnelle, fort président illégitime, ou encore la communauté internationale n'existe plus. Les messages peuvent se résumer en ces mots qu'on s'appelle Abitissa, Claude Amégambi, Jean Clou, ou encore Patrick Lawson, ou encore le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. La mobilisation encore et toujours, la lutte doit être nationale et ne fait que commencer. Pour cela, nous avons besoin de la détermination de tout le monde. Pour ceux qui estiment que les marches ne font rien pour le RPT ou n'intéressent pas le RPT ou n'affaiblissent pas le RPT, je puis vous assurer que c'est faux, a renchéri Jean-Pierre Fabre.
Oui, Fabi Kouassi, quelle information complémentaire pouvons-nous avoir sur la fermeture de certaines radios par la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication au Togo? On rappelle quand même que XLR, une radio très écoutée à Lomé, a été également fermée. Fabi Kouassi.
Oui, au-delà de la HAC, c'est surtout l'autorité de réglementation des télécommunications et des postes, la RTP, avec Massina Palouki à la tête. Radio XLR, c'est vrai, c'est l'une des plus écoutées actuellement par les Togolais grâce à l'une de ses émissions baptisées Sogbevo, qui vient d'être suspendue sur décision donc de la RTP. Ces stations n'ont ni récépissé ni équipement adéquat digne de radio professionnelle. C'est ce que relève en tout cas l'institution d'attribution des fréquences à l'issue d'un contrôle effectué dans leurs locaux du 10 au 18 novembre dernier. Certains y voient carrément dans cette fermeture une décision politique qui consiste à faire taire cette station XLR qui gêne sérieusement le pouvoir en place et traité par les proches de Gilchrist Olympio de Radio Mille Collines. Outre XLR, Providence et Métropolis n'émettent plus pour non-paiement de redevances. 8 autres radios sont dans le collimateur de la RTT. Elles ont jusqu'au 22 février 2011 pour s'équiper en matériel professionnel et aménager des studios pour répondre aux normes de radiodiffusion, dit-on. En tout cas, les responsables de XLR assurent mener les démarches pour une réouverture des antennes dans les brefs délais. Au niveau du FRAC, tout à l'heure, au niveau du meeting, au cours du meeting, Patrick Lawson a appelé les populations à cotiser pour payer les redevances que doivent XLR à l'autorité de réglementation.
Oui, Fabrication et Fabicois, c'est une dernière question. Pour avoir manqué dans une publication du lycée technique à Tiégou de faire figurer à la une la photo du ministre Diabaté, celui-ci révoque de son poste un proviseur. Fabi, qu'en est-il exactement?
Oui, le ministre de Gilchrist Olympio continue de s'illustrer négativement. Un fait digne d'être classé dans la rubrique insolite ou fait divers, mais qui a une portée politique vu le zèle dont les poulains de l'ex-opposant historique font montre. L'info fait la une depuis le début de cette semaine. Le ministre en charge de l'enseignement technique et de la profession et de la formation professionnelle, Bouraïma Brim Diabaté, vient de limoger de son poste un proviseur d'un lycée technique. La faute de ce dernier, avoir manqué de mettre le tout-puissant ministre à la une d'un journal interne à un lycée technique, le lycée technique d'Atibou. Il a également reproché à ce proviseur de lycée d'avoir omis de faire précéder de son nom l'expression consacrée « Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle du Zelmedago ». S'exclament beaucoup de Togolais qui s'étonnent quand même de ce que Gilchrist Olympio fait exactement ce qu'il a toujours reproché à ceux qui sont au pouvoir. Donc après Dimo Auré ou encore le ministre Galais de l'Enseignement supérieur, c'est Abrim Diabaté de s'illustrer aussi négativement sur la scène politique en seulement quelques mois de fonction ministérielle.
Fabi Kouassi, merci.
À samedi.
Fenêtre sur l'Afrique, interview, débat, analyse sur l'actualité politique africaine sur Radio Canal K, une émission présentée par Sylvain Amos.
Notre invité, notre deuxième invité, n'est autre que l'écrivain togolais Alexandre de Souza. Alexandre de Souza est né à Lomé au Togo. Il grandit avec sa mère et ses frères dans une totale liberté d'esprit et une rigueur personnelle inspirée de profondes valeurs morales et chrétiennes. Il accomplit ses études primaires et secondaires au Togo, au Ghana, puis au Bénin, avant de rejoindre la France pour le troisième cycle. Marié et père de deux enfants, chef d'entreprise et président d'une organisation humanitaire, cet homme pragmatique et déterminé s'investit en outre dans la défense des droits humains au sein d'un organisme international. Son premier ouvrage intitulé « Togo, dynastie de la terreur » publié en 2009 relève la dictature implacable du régime RPT qui est toujours au pouvoir au Togo. À travers une fiction, Alexandre raconte comment le personnage Brice parcourait le monde entier et enquêtait sur les plus sombres affaires de pouvoir et de corruption. Pour son second ouvrage paru le mois passé, L'Africain est-il intelligent ? Notre écrivain affirme que le problème de fond n'est pas une question entre blanc et noir, c'est plutôt une question de société, du fait que ce sont les œuvres concrètes qui reflètent l'essence de tel ou tel groupe humain. Ce qui doit être la préoccupation des Africains aujourd'hui, c'est de saisir ce qui est à l'œuvre dans les hiérarchies entre différents peuples, non pas en termes de race, de nation, de peuple ou d'individu, mais plutôt dans la logique du comment. Cette question du comment est la meilleure manière de poser la question de l'intelligence de l'homme africain selon Alexandre de Souza, que nous allons recevoir dans un instant depuis, bien sûr, la France. J'espère qu'il est déjà en ligne. Nous le recevons tout de suite. Alexandre de Souza, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Amos.
Vous êtes dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique et merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Alexandre de Souza, vous êtes auteur de deux livres. Togo, la dynastie de la terreur, publié en 2009 chez l'édition Bénévent en France. Et le deuxième, L'homme africain, est-il intelligent, paru en novembre 2010 aux éditions AFNOD Afrique Noire Debout. Alexandre, dans quel genre de style écrivez-vous ? Si nous avons les mêmes compréhensions du mot intelligence, et en se référant à la notion élémentaire du droit universel qui stipule que tous les hommes sont égaux, alors pourquoi cette interrogation sur l'homme noir et seulement que sur l'homme noir, Alexandre ?
Bon, je commence par vous dire que si vous répondez par oui à la question « Tous les hommes sont-ils intelligents ?» Alors il va sans dire que l'homme africain, qui fait partie intégrante du genre humain, est aussi intelligent. Donc quel est donc l'intérêt pour moi de poser une telle question ? Autrement dit, qu'est-ce qui m'a amené à m'interroger sur l'intelligence de l'homme africain spécifiquement ? Mmh. Donc je vais vous répondre en trois points. D'abord, en faisant une rétrospective, je trouve que cette question m'est venue tout simplement parce que je suis africain. Je suis homme africain né en Afrique, ayant vécu en Afrique jusqu'à la majorité et ayant eu la chance de vivre aujourd'hui dans un pays comme la France. Mais cette chance que j'ai eue personnellement de quitter mon pays et le continent africain s'est rapidement transformée en inquiétude. Elle s'est transformée en une angoisse existentielle. Lorsque je vois un peu ce monde dans lequel je vis en Occident, et que j'arrive à comprendre la façon dont ils arrivent à dominer d'autres peuples, comment ils arrivent à se développer, à maintenir leur puissance et à faire en sorte que l'Afrique reste à sa place. Donc c'est à ce moment-là que cette question de l'intelligence m'est apparue comme une évidence. Et comme je l'ai expliqué dans mon avant-propos, non pas comme une question d'essence, ni de nature, ni de race, mais dans une logique argumentative du comment. Comment, par exemple, les Blancs sont-ils devenus Blancs ? Comment les dictateurs font-ils pour maintenir l'Afrique sous leur joug ? Voilà les questions. Comment, sous couvert d'institutions démocratiques, l'Occident et ses machines de guerre, que sont l'ONU, la Banque mondiale et le FMI, organisent-ils le piratage de l'Afrique et de l'humanité ? Donc, lorsqu'on apporte une réponse à la question du comment, on trouve la réponse au mot de l'Afrique et surtout, la solution devient évidente.
Mmh.
Donc c'est ça le premier point que je développe pour expliquer cette intelligence, pourquoi je parle d'intelligence. Le deuxième point,
allez-y,
c'est
oui.
une question sur l'intelligence de l'homme africain, telle qu'elle est formulée, telle que je l'ai formulée moi, me permet d'apporter une réponse que beaucoup n'attendent pas. Ce n'est pas pour provoquer qui que ce soit, mais c'est pour apporter une réponse assez large. Donc, pour me situer et éviter d'être le premier homme sur Terre à avoir osé une telle question, j'ai évoqué en passant le philosophe Hegel qui a classé l'Afrique au degré zéro de l'histoire. Mais implicitement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que implicitement, si l'Afrique est ce monde anhistorique que le philosophe décrit, c'est qu'il pense que les Africains ne sont pas assez intelligents pour se développer au même titre que les autres. Il y a aussi ce chercheur, James Watson, voilà, qui est co-découvreur de la structure de l'ADN et prix Nobel de médecine, qui a défrayé les chroniques en affirmant de façon claire que l'homme africain n'est pas intelligent et en se disant pessimiste sur l'avenir du continent. Et puis, enfin, notre cher Sarkozy, qui s'inspirait de Hegel, qui trouve une réponse à la question de l'homme africain. Il est tout simplement allé au Sénégal pour dire aux Africains qu'ils sont stupides. Et il a été applaudi très 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 fort. Voilà des éléments, des gens qui avant moi ont parlé de l'intelligence africaine et toutes ces personnes. Je dois dire qu'aujourd'hui encore dans ma vie quotidienne, je rencontre d'autres personnes hypocritement qui parlent de l'intelligence africaine. Mais donc vous voyez que si on laisse des personnes non africaines réfléchir et discourir sur l'homme africain, mais celles-ci ne perdent pas une occasion de définir l'homme africain comme elles le perçoivent ou comme elles croient le connaître.
À l'absent de oui, allez-y, oui.
Non, je veux dire, pour moi, la seule réponse qui vaille, c'est celle d'un Africain. C'est-à-dire que pourquoi laissons-nous les autres nous définir en nous refusant nous-mêmes le droit de parler de nous? C'est ce que moi, j'essaye de faire. Et permettez-moi de terminer rapidement sur le dernier point, parce que le dernier point, c'est ceci, je ne mets aucune limite ni à ma pensée, ni à ma liberté de penser. C'est-à-dire que je pense ce que je veux et je l'exprime comme je le pense. Donc à partir du moment où il s'agit d'une question existentielle pour moi, je ne me préoccupe pas des états d'âme des uns et des autres. Et je ne me laisse surtout pas influencer par une quelconque autorité, qu'elle soit législative, politique, morale, sociale ou religieuse, qui voudrait surtout qu'on se conforme tous à une pensée unique qui nous mènerait vers une certaine uniformisation de la pensée ou une globalisation et une mondialisation intellectuelle et culturelle. Parce que la conséquence est que chez l'homme blanc, cette forme d'hypocrisie sociale rejaillit à chaque fois lorsqu'il tourne le dos au micro ou aux caméras. Mais chez l'homme noir, sa manie, plutôt à rejeter d'office tout ce qui est produit par une main ou un cerveau noir au profit de ce qui n'est pas au profit de ce qui vient de l'homme blanc. Alors donc, il faut que l'homme africain prenne ou qu'il comprenne que c'est à lui et à lui seul que revient la lourde tâche de se décrire, de se définir, d'écrire son histoire et d'inventer son monde. Et pour ce faire, il faut qu'il commence par se poser des questions qui ont l'air de lui faire mal ou des questions qui le dérangent. Peut-être qu'au bout, on trouvera des réponses qui apaisent, justement. Donc c'est ce que j'espère en posant cette question-là sur l'intelligence de l'homme africain. Voilà.
Alexandre de Souza, merci pour ce développement, mais restez toujours en ligne avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Romain est déjà en ligne de l'autre côté de Bonn en Allemagne. Romain, rebonsoir.
Bonsoir, monsieur Alexandre de Souza.
Bonsoir, Romain.
Parlant toujours de l'intelligence, vous-même, vous vous exprimez en français. N'êtes-vous pas assez intelligent pour écrire en swahili, par exemple, la langue de l'Afrique? Et ensuite, vous faites un livre où vous-même, vous vous mettez en podium par plusieurs photos. Est-ce que les gens ont besoin de votre image ou de votre message?
Monsieur Romain, pourquoi est-ce que vous ne m'interrogez pas vous-même en swahili? Parce que pour moi, ce serait la preuve parfaite que nous avons une langue africaine commune. Et ce serait surtout la preuve de notre indépendance. Donc, monsieur Romain, vous et moi, nous sommes tous, vous et moi et les autres Africains, nous sommes tous dans la même galère à la recherche de notre identité perdue ou volée. Parce que quand nous parlons nous écrivons, nous réfléchissons, mais c'est dans la langue du colonisateur. Même notre structure de pensée et tout nous est dictée par le colonisateur, l'envahisseur. Aujourd'hui, voyez, le chinois, par exemple, est enseigné dans toutes les universités en Occident. L'arabe est enseigné presque partout dans toutes les universités. Lorsqu'un Américain va en Chine pour négocier un contrat, il essaye de parler chinois. Lorsqu'il va au Koweït pour son pétrole, mais il essaie aussi de parler arabe. Mais lorsqu'il vient en Afrique, il demande à l'Africain de comprendre sa langue à lui, donc l'anglais. Le jour où l'Afrique aura sa langue communautaire, sa propre langue, ce sera également pour nous un signe de puissance. Ce sera une barrière économique et surtout, là où ça devient intéressant, c'est que l'homme blanc qui se présentera en Afrique pour un contrat fera l'effort de comprendre l'homme africain, de comprendre sa langue, de comprendre sa culture. Donc, l'homme africain s'adapte, l'homme africain s'est toujours adapté. Hein. Je pense qu'il s'adapte d'ailleurs beaucoup trop facilement aux autres, aux cultures des autres. Il est temps que ce soit les autres aussi, que les autres s'adaptent à l'homme africain. Voilà pourquoi aujourd'hui, ben voilà, c'est pas raisonnable, mais on fait cette interview. Vous êtes en Allemagne, monsieur Amos est en Suisse, je suis en France, on fait cette interview en français, parce que voilà, c'est la langue que nous avons pour pouvoir nous comprendre.
Oui, Romain, si vous avez des questions, continuez, Romain.
Oui, par ailleurs, monsieur Alexandre, vous affirmez dans votre livre que l'Afrique n'est pas indépendante et en même temps, vous vous posez la question de savoir pourquoi l'Afrique qui a faim produit du café au lieu du maïs. N'avez-vous pas la réponse à votre question ?
Oui, Alexandre.
Oui, je suis à l'écoute.
Mmh, allez-y.
Moi, j'ai la réponse. Mmh. Je pense que vous aussi, vous avez la réponse.
Oui, allez-y, mais, Alexandre, oui.
Mais je pose la question, surtout pour sensibiliser nos pauvres dirigeants, ceux qui président au destin des peuples et qui semblent ignorer qu'une réelle indépendance commence lorsque le ventre est plein ou bien rempli. Parce que si vous confiez votre ventre à un ennemi, vous lui confiez en même temps votre tête et votre âme. Donc, il ne faut pas s'étonner que les autres nous dominent, alors même que le continent a faim et gaspille son énergie à produire du coton ou du café pour la consommation de l'homme occidental. Voilà, il est temps, il faut qu'on adopte maintenant les bonnes stratégies au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie et puis au niveau de tout, quoi. Voilà, c'est pas une question que je me pose à moi, mais je pose cette question pour les autres, pour ces dirigeants qui n'ont pas l'air de comprendre comment les choses se passent.
Oui, Alexandre, vous faites allusion également à la page 104 de votre livre « L'homme africain est-il intelligent ?» et à la page 104 de votre livre, vous faites allusion au contrat de bail contracté entre la France et la Côte d'Ivoire, notamment la présidence de la République et le Parlement que les Français ont loué aux Ivoiriens dans leur pays sous feu ou fouette Boigny. Étant conscient que tous les résistants à la France partenariste ont payé de leur vie, le cas du premier président de votre pays, par exemple le Togo, et qu'aurez-vous fait de mieux ou à proposer, Alexandre?
Je ne pense pas qu'on puisse payer indéfiniment de sa vie son opposition ou sa résistance à un envahisseur. Parce que pour ma part, je n'ai pas peur de payer. Je n'ai pas peur de mourir pour mes idées. J'aurais juste peur que mes idées ne soient pas entendues, ne soient pas connues ou que des Africains s'en détournent. Voilà ce qui me fait peur. En tout cas, quoi qu'il en soit, il arrive toujours un jour ou un moment où le grain qu'on a semé pousse et mûrisse. À ce moment-là, rien ni personne ne pourra s'opposer au désir d'émancipation d'un peuple ou d'un continent. Voilà. Donc ce que je propose est donc à découvrir dans mon livre, mais comme vous parlez du contrat de bail contracté entre la France et la Côte d'Ivoire, par exemple,
exactement, oui.
La présidence de la République ou le siège du Parlement ivoirien, mais je pose juste cette question à la France. Est-ce que la France acceptera que l'Élysée, est-ce que la France acceptera que la Chine, par exemple, je donne l'exemple de la Chine, que la Chine soit le propriétaire de l'Élysée ou de Matignon? Est-ce que la France acceptera que la Russie ou les États-Unis dirigent son ministère de la Défense ou de l'Énergie? Parce que si elle répond non à cette question, alors je trouve tout de suite que la France n'a rien à faire en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble des territoires africains. Voilà. Donc c'est par là que je décrète qu'on n'est pas indépendant. Et l'indépendance, c'est un mot qu'on utilise en Égypte, mais la réalité en est autre. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Voilà.
Oui, Alexandre, restez toujours en ligne. Romain, vous avez une dernière question ?
Évidemment. Monsieur Alexandre, parlant justement de la Côte d'Ivoire, avez-vous un commentaire sur la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle que vous avez cité en exemple dans votre livre où le président Sarkozy, depuis l'Inde, se précipite sans l'avis de la Cour constitutionnelle indépendante de la Côte d'Ivoire à féliciter Alassane Dramane Ouattara ?
Comme vous, je suis les derniers développements de l'actualité en Côte d'Ivoire. Je suis assez malheureux quand même pour ce pays, pour comment ça se passe. Mais la solution n'est pas dans, à fait que Sarkozy, l'ONU ou les autres se précipitent pour féliciter, etc. C'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs et il faut vraiment que les Ivoiriens s'assoient et pour régler leurs problèmes internes, mais entre eux. Moi, ce que je peux souhaiter, tout simplement, à ce pays, c'est la paix. Hein, et que les Ivoiriens, surtout, ne se trompent pas d'ennemis. Donc, il faut qu'ils règlent leurs problèmes. Et ça fera honneur à l'Afrique que les Ivoiriens arrivent à régler leurs problèmes de façon pacifique aujourd'hui, sans verser dans la guerre civile ou dans des troubles qui peuvent dégénérer quand même dans l'ensemble de la sous-région.
Oui, Alexandre de Souza, une dernière question. Après avoir mis en cause l'intelligence de l'homme noir, dont vous-même, on rappelle que vous êtes aussi africain, hein, quelle conclusion tirez-vous, Alexandre ?
Bon, soyons clairs sur les termes, parce qu'il ne s'agit pas d'une mise en cause. Hein. Je n'oserais pas m'insulter moi-même. Il s'agit plus profondément d'une relecture historique, doublée d'une réflexion analytique sur l'état du continent. Et avec à la clé, surtout, des propositions concrètes, voire radicales. Quand vous lirez, vous verrez. Donc des propositions concrètes, voire radicales, qui permettront un jour à l'homme africain de se tenir debout, de s'affranchir de la domination, de prendre en main son destin et, pourquoi pas, je le souhaite, de définir à son tour le destin des autres.
Alexandre de Souza, merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je précise que vous êtes auteur de deux livres. Le premier, Togo, dynastie de la terreur, publié en 2009. Et le tout nouveau, L'homme africain est-il intelligent ? Merci encore une fois d'être en direct avec nous depuis Paris.
Merci, M. Amos. Et puis merci à votre confrère de l'Allemagne, M. Romain.
Romain, oui. Au revoir. Eh bien, le tout dernier livre de Alexandre de Souza que nous venons de recevoir est en ligne sur le site internet de AFNOD et sur son site personnel alexandredesouza.com. J'espère que vous pouvez visiter ce site pour essayer de pouvoir être en possession de ce livre que Alexandre de Souza vient de sortir, L'homme africain est-il intelligent ?
La parole au peuple. La parole au peuple, c'est dans Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K.
Eh bien, la parole au peuple, c'est dans Fenêtre sur l'Afrique et bien sûr sur Radio Canal K. L'invité de la parole au peuple dans Fenêtre sur l'Afrique est Mika Gloria du Gabon. Nous allons la recevoir tout de suite en direct depuis la France. Mika Gloria, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos, comment allez-vous ?
Je vais bien, merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique, dans la rubrique La parole au peuple. Mika Gloria, vous êtes fondatrice du mouvement Les Anges Gardiens du Gabon. Votre association soutient les initiatives pacifistes et prône la résolution des conflits au sein du dialogue sans violence. Et Mika Gloria, vous revenez justement du sommet Africa EU Youth Summit en Libye et qui a précédé celui des chefs d'État. Qu'est-ce qui explique selon vous le problème de la non-transparence des élections en Afrique, surtout francophone, Mika Gloria ?
Bonsoir encore une fois, Sylvain. Je vous remercie pour cette invitation et m'offrir l'opportunité de m'exprimer sur votre média. Alors, effectivement, je reviens de la Libye où nous avons eu notre sommet de la jeunesse euro-africain, où nous avons effectivement travaillé sur une déclaration qui a été remise au chef d'État, qui exprimait un petit peu notre volonté d'être des acteurs plus présents dans le decision-making process en matière de décision. Et pour revenir sur la transparence électorale, je dirais même que nous avions très clairement exprimé au sein de la déclaration notre volonté de voir les Européens et les Africains travailler ensemble pour une application des derniers outils technologiques qui pourraient effectivement permettre d'organiser des processus électoraux transparents. Et ceci principalement afin d'éviter des élections frauduleuses qui, par la suite, entraînent des conflits. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe effectivement sur notre continent africain au niveau du problème de la non-transparence ? Je pense qu'il faut peut-être commencer par voir ce qui se passe au niveau de la démocratie, parce qu'il faut voir aussi que notre continent n'a pas vraiment... eu l'opportunité d'avoir des dirigeants qui puissent vraiment servir d'exemple, on va dire, en matière de démocratie. Et cela, autant pour le Gabon, qui est mon pays, que le Cameroun ou le Congo, et j'en passe. Et même en Égypte, d'ailleurs, parce qu'on pense souvent à l'Afrique subsaharienne, mais je pense qu'il n'y a pas que nous. Je pense qu'effectivement, c'est un fléau dont souffre notre continent et que, malheureusement, quand on parle de pays qui sont plus exemplaires en matière de démocratie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a principalement le Ghana qui vient à l'esprit, ou encore peut-être le Botswana. Et quand on parle de bonne gouvernance, on a le Cap-Vert qui s'en sort, mais le reste, pour le reste, on a encore effectivement, malheureusement, la non-transparence d'avoir encore de beaux jours devant elle.
Exactement, oui. Oui, Mika, Gloria, en ce moment même, la Côte d'Ivoire connaît un flou total dans la proclamation des résultats. Jeudi dernier, c'était la CEI, Commission électorale indépendante, qui proclamait les résultats provisoires, annonçant la victoire de Ouattara, mais le Conseil constitutionnel a validé plutôt vendredi la victoire du président sortant Laurent Gbagbo, qui a prêté serment cet après-midi à Abidjan. Et quelle lecture faites-vous sur cette situation très critique du second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Mika Gloria?
Bon, je trouve effectivement que c'est une situation très critique. Je déplore l'attitude de ces leaders politiques qui alimentent cette cacophonie, parce qu'on se retrouve finalement à avoir des organes et des institutions qui ne jouent pas nécessairement leur rôle en temps et en heure comme prévu. C'est-à-dire qu'effectivement, la CEI a certes proclamé M. Ouattara comme le président vainqueur du deuxième tour, et on a la Cour constitutionnelle qui a aussitôt réagi sous prétexte que le délai était passé pour la CEI de proclamer que ce n'était plus l'organe qui était supposé le faire. Bon, je blâme effectivement les mesures qui ont été prises, autant par la CEI et par la manière même dont les choses se sont faites, parce qu'effectivement, s'il faut faire les choses en suivant la loi, on peut dire que la méthode n'a pas été exemplaire. Et maintenant que la Cour constitutionnelle, en contrepartie, ait annoncé quelque chose qui vient chambouler ce qui a déjà été annoncé, pour ma part, ne présage rien de bon. Et on arrive, bon là, ce soir, il a déjà été investi, M. Gbagbo. Donc, pour ma part, ma lecture de la situation actuelle est vraiment très, très... Je ne pense pas qu'on est à l'abri d'une instabilité qui va souffrir encore la Côte d'Ivoire pour un petit moment, je pense.
Mika Gloria, une dernière question. L'ONU et la communauté internationale, et la France aussi, quant à eux, dénoncent le coup de force de Gbagbo. La France a plutôt reconnu la victoire de Ouattara. Et pourra-t-on dire qu'on assiste là à une continuité de système France-Afrique, où la domination de l'Occident sur l'Afrique dans le processus de démocratisation en Afrique, Mika Gloria?
Je pense qu'il ne faut pas avoir une lecture simpliste de la situation. Je déplore effectivement, malheureusement, cette espèce de démocratie à géométrie variable de la communauté internationale qui se prononce quand elle le veut sur certaines situations plus que d'autres. Effectivement, je trouve ça déplorable parce que pour le Gabon, on n'a pas manqué de par exemple solliciter en amont le soutien de la communauté internationale avec des preuves juridiques à l'appui, comme quoi on avait une élection qui était plus une mascarade qu'autre chose. Puis bon, on voit que dans d'autres circonstances, on a eu quoi ? Le Burkina Faso qui a eu son élection, on n'a rien entendu. La Guinée, apparemment, a failli leur glisser sous les doigts. Donc il y a eu des choses qui se sont faites un petit peu par-ci, par-là. Mais finalement, on a quand même M. Alpha Condé qui a été proclamé. Et enfin, on ne comprend pas pourquoi il y a tant de bruit et de remue-ménage pour certains pays plus que d'autres. Et effectivement, cela donne raison à certains qui veulent bien croire et qu'on voit bien qu'il y a le jeu de la France-Afrique qui est là. Et je dois moi-même avouer que j'étais très surprise du courage du président Gbagbo qui s'est imposé, je pense, à sa manière, mais qui a quand même joué sur un jeu constitutionnel qui est ce qu'il est. Il y a quand même une souveraineté qui est là, qu'il faut respecter. Et bon, ben on va dire que tout le monde n'a pas été nécessairement bon joueur là, à ce niveau-là.
Mika Gloria, merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique, dans la rubrique La parole au peuple. Je rappelle que vous êtes fondatrice du mouvement Les Anges Gardiens du Gabon.
J'ai compris que l'amour pardonne. J'ai dit des choses sans regarder derrière. Chérie, n'oublie pas que je t'aime. Tu as tout fait pour moi. Mon amour grandira, grandira, grandira pour toi. À mes francs et au poum les nala.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous, pas samedi prochain, mais samedi suprochain, pour d'autres actualités politiques sur la vie politique africaine. Et également, nous allons également refaire une interview, bien sûr, avec nos hommes politiques du Togo, que nous avons l'habitude de le faire souvent. Merci pour votre fidélité. Sylvain Amos au micro, Esteban Gagnon et Josué Maulé à la programmation. Collaboration parfaite de Fabi Kouassi de Lomé et de Romain Koudadi depuis Bono. Bonsoir à toutes et à tous.
zoomia be fofoli no le kloa toa ola no sino no le sinawa ola no flodo